RMC Intégral Tour, Arnaud Souk.
Salut à tous, l'Intégral Tour continue jusqu'à 21h. À 18h06, on accueille, ou plutôt on retrouve, le druide de la Dream Team. Salut Siri. Siri est là ? Siri n'est pas là. Bon, on va le retrouver dans quelques petites secondes. Siri Guimard qui arrivera avec nous pour débriefer cette étape du Tour de France, la 18e étape du Tour de France et doublé français sur la ligne d'arrivée. C'est assez rare pour être signalé dans un sprint massif. Arnaud Démare, le picard de la Groupama FDJ, s'est imposé devant Christophe Laporte, le coureur de la Cofidis, et Alexander Christophe, le Norvégien du team UAE Emirates. Siri Guimard, on l'a retrouvé. Salut Siri.
Oui, mais non, il n'était pas loin.
Je m'en doute.
Mais non, je vais vous dire tout exactement pourquoi j'étais un tout petit peu absent. C'est que j'ai un ami qui vient d'un ancien coureur qui vient de nous apprendre le décès d'un petit jeune de 15 ans dont on aura l'occasion sans doute de reparler demain.
Je t'en prie, Cyril, n'hésite pas. 18h07, si tu le veux bien, on va évidemment revenir sur ce doublé français qui pour le coup est extrêmement réjouissant pour le sprint français. Arnaud Démare devant Christophe Laporte. Il fallait le parier, celui-là, à cette arrivée à Pau.
Oui, mais je l'avais parié.
C'est vrai, tu avais dit Démare devant la porte.
J'avais pas dit Démare devant la porte, puisqu'on ne donne qu'un
oui.
nom ou pas.
Oui, oui, voyons, oui. Voyons. Non, mais oui. Évidemment, la victoire d'Arnaud Démare est exceptionnelle, mais le doublé français qui est encore plus exceptionnel, même si la porte forcément ce soir.
Belle fin de tour pour les Français avec Alaphilippe et Arnaud qui s'imposent aujourd'hui devant Christophe Laporte. C'est la confirmation que d'abord Arnaud a retrouvé tout son punch, et puis la confirmation aussi des capacités de Christophe Laporte à exister dans les sprints au plus haut niveau.
Par contre, Peter Sagan visiblement ne s'était pas remis de la chute qu'il a subie hier, même si il y avait rien de grave. Peut-être qu'il n'était pas totalement encore rétabli, on va dire, au moins psychologiquement.
Pas tout à fait, mais il s'est bien fait enfermer côté gauche aux 400 mètres. Là, il pouvait plus ressortir. Il y avait un autre virage juste derrière, donc il s'est retrouvé 20e. Sinon, si là il se fait pas enfermer, il jouait quand même, quoi.
Ouais. Y en a un qui se fait un petit peu enfermer, c'est Christophe Laporte aujourd'hui dans ce sprint. Alors, je sais que ça va forcément faire débat. Actuellement, Arnaud Démare est en train de soulever le bouquet de fleurs sur le podium du côté de Pau. Pourtant, Arnaud Démare semble-t-il, selon l'interprétation de certains règlements, a fait un sprint pas totalement régulier. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, Cyril.
Oui, alors, personnellement, je me suis exprimé tout à l'heure. J'ai revu encore la des images il y a quelques instants. Oui, effectivement, Arnaud ne garde pas très bien sa ligne, mais il ne gêne pas suffisamment Christophe Laporte pour qu'il soit déclassé. Donc le classement premier Arnaud Démare, deuxième Christophe Laporte est tout à fait logique malgré cette légère vague qu'a fait Arnaud Démare.
On peut dire que les équipes françaises sauvent clairement leur tour sur ce coup-là, et en tout cas la Groupama FDJ, c'est clair, qui est handicapé de l'absence de Thibaut Pinot.
Oui, Groupama FDJ, aujourd'hui, ils ont réussi leur tour. Ils auraient pu faire beaucoup mieux, mais ils auraient pu aussi faire beaucoup moins bien si Arnaud n'avait pas retrouvé aujourd'hui sa giclette. Mais pour cette équipe, eh bien le tour est sauvé. Il reste maintenant, bien sûr, à Christophe Laporte peut-être de s'imposer et d'inverser le classement sur les Champs-Élysées.
Messieurs, à 18h10, enfin messieurs, dames, Siri Guimard, je vous propose d'aller faire un petit tour sur nos directs du soir. Et oui, le football reprend, la Coupe du Monde est terminée. Et pourtant, il y a encore déjà du foot, j'ai envie de dire. Le match entre Ventspils et les Girondins de Bordeaux, c'est de la Coupe d'Europe. Vous la vivez sur RMC Sport à la télé, RMC Sport 1 et sur RMC. Évidemment, Christophe Plenet, c'est le deuxième tour préliminaire aller de Ligue Europa. Là où Bordeaux s'était cassé les dents l'an passé, où en est-on?
Exactement, contre les Hongrois de Vidéoton, toujours 1-0 en faveur des Girondins de Bordeaux. Un but inscrit, je vous le rappelle, dès la troisième minute par Zédou Youssouf qui a cédé sa place à Nicolas Depréville il y a quelques instants. On joue la 69e minute de jeu et des Girondins quand même qui se font bouger. Les Lettons mettent énormément d'engagement dans cette partie, et il va falloir quand même pour les hommes de Gustavo Poyet être sérieux jusqu'au bout.
Italie-France, ça c'est la demi-finale de l'Euro des U19, la génération 99-2000 qui joue en ce moment en Finlande. C'est parti depuis 10 minutes, Mathieu Charret.
Absolument, et toujours 0-0, les Bleus qui donnent
dominent plutôt ce début de match, même s'ils se sont fait une grosse frayeur tout à l'heure à la quatrième minute, hein, où Malang Sarr, le capitaine et défenseur central des Bleus, a failli détourner dans son but un centre venu de la droite. Il a fallu toute la vigilance de Diouf, le gardien français, pour garder sa cage inviolée. 0-0, donc toujours après 11 minutes de jeu entre la France et l'Italie.
À 18h11, bienvenue si vous nous rejoignez, dans l'intégral tour. On vous attend au 32-16 sur Direct Studio et sur le hashtag RMC Live pour revenir sur la 18e étape aujourd'hui entre Trie-sur-Baïse et Pau, remporté par Arnaud Démare, le sprinter de la Groupama FDJ, devant Christophe Laporte. Dis Cyril, il y a quand même quelque chose qui est à souligner, c'est que Arnaud Démare remporte sa deuxième étape sur le Tour de France, alors pas cette année puisqu'il s'était imposé l'an passé à Vittel. Deuxième victoire d'étape, je veux dire, là il rentre quand même dans la cour des grands sprinteurs, on va dire, hein, parce que bon, certes il y en a qui en ont gagné beaucoup plus, mais deux victoires sur deux tours différents, ça commence quand même à être significatif.
Oui, c'est significatif, mais il est déjà dans la cour.
Il l'est, évidemment, mais là au moins ça tamponne.
N'oublions jamais qu'il a déjà quand même remporté une petite épreuve qui fait partie
du nom de Milan-San Remo.
Milan-San Remo.
Et bien sûr, non, mais Cyril, c'était pas ce que je voulais dire, mais là ça
j'ai compris, mais bon, les supporters d'Arnaud, ils vont pas comprendre là si. Non, il fait vraiment partie des meilleurs sprinters. Bien sûr, c'est pas Gaviria, mais il entre progressivement, effectivement, parmi les coureurs capables de gagner des étapes sur les grands tours. Et puis il fait encore 7 ou 8 grands tours et qu'il en gagne une par an, ça finira par faire un beau palmarès.
Oui, c'est clair. Pour l'instant, Sagan, il en a pas tant que ça au final, quand on regarde le nombre de participations qu'il a sur le Tour de France. Par contre, il a une collection de deuxième place, hein, Peter Sagan. Enfin, il a une collection de victoires aussi.
Une collection de maillots verts.
Et une collection de maillots verts au passage. Effectivement, quoique Arnaud Démare ne sera pas si mal que ça. Dans ce classement du
en vert, ça lui irait bien, moi je trouve, mais bon, là c'est un peu tard.
Il l'avait porté l'an passé, durant une journée,
pour aller le chercher maintenant.
Là ça va être compliqué, effectivement. Cyril, on va se projeter, si tu le veux bien, sur l'étape de demain. 200 km 500, cette 19e étape entre Lourdes dans les Hautes-Pyrénées et Larens dans les Pyrénées-Atlantiques. On sera largement dans les Hautes-Pyrénées. Je vous donne juste comme ça le programme. Côte de 4e catégorie à Cap-Verne-les-Bains, ça sera juste avant d'aborder le bas, on va dire, de la Vallée d'Or et de se projeter depuis Arreau vers le col d'Aspin. Descente ensuite par le lac de Payolle et puis on va remonter vers le mythique col du Tourmalet. Ça sera hors catégorie avant la descente dans la vallée. Et puis là, l'enchaînement col des Bordères, col du Soulor et col d'Aubisque avant la descente sur la Reims. Ça va, le programme, il est pas mal quand même là pour demain. Il risque d'y avoir une belle bagarre là encore pour le classement général. Moi, j'ai lu par-ci par-là, Cyril, que ça y est, le tour était joué, que Christopher Froome, il garderait pas son titre cette année. Est-ce que demain il peut pas rééditer une performance telle qu'il l'a faite sur le col des Les Finestrés sur le Tour d'Italie il y a 2 mois?
Eh bien, on ne peut jurer de rien quand on a vu ce qu'a fait Froome sur un Tour d'Italie où il était beaucoup plus en difficulté que sur le Tour de France, car il avait été lâché à plusieurs reprises dans les arrivées difficiles,
notamment dans l'Etna.
Entre autres, oui, c'était la première fois. Et quand on voit le numéro qui en 24 heures le changement de décor, il faut rester très prudent. Et rien ne dit que demain il est pas capable de rééditer ce type d'exploit. Sauf que là, peut-être que les cartes ont été distribuées de façon impérative par Dave Brailsford en disant le classement il doit rester comme ça, point.
Tu y crois à ça vraiment ou c'est inimaginable de voir Froome essayer une grande épopée?
Écoutez, je pense que pour sa popularité, ce serait très mal vu. Et puis, je suis pas certain, parce que je sais pas si vous avez pu remarquer, mais Geraint Thomas, il est quand même très facile. Il a jamais été mis en difficulté à quelque niveau que ce soit de la course depuis le départ. Et je pense que s'il y avait un coup tordu, parce qu'on pourrait l'appeler comme ça, s'il y avait un coup tordu, je pense que Geraint Thomas serait capable de faire la police tout seul.
Tu vois, toi, Geraint Thomas, clairement rester demain, alors même indépendamment de Christophe Froome, rester avec son maillot jaune, ne pas être mis en difficulté, même par le Néerlandais, deuxième du classement général, Tom Dumoulin?
Eh bien, j'ai envie de dire, oui, dans la logique, je vois pas très bien comment on peut le déboulonner. Alors on va toujours dire oui, mais il y a l'accident, il y a un événement qu'on ne peut pas soupçonner qui pourrait arriver et qui ferait que il peut aussi éventuellement être victime d'une défaillance. Mais dans la logique des choses, personne ne peut dire ou prétendre que Geraint Thomas va sauter demain dans cette étape, aussi difficile soit-elle. Et j'ai presque envie de dire, plus elle est difficile, et plus elle est à l'avantage, plus elle est à l'avantage de l'homme qui est le plus fort. Donc ça me paraît vraiment difficile, voire impossible. Mais une course n'est jamais gagnée tant qu'on n'a pas franchi la ligne.
Raconte-nous un petit peu cet enchaînement. Tu le connais bien, le Tour le connaît très bien parce qu'il le prend quand même extrêmement régulièrement. Arro, Col d'Aspin. Donc là, le Col d'Aspin, on le prend par le versant de 12 km à 6,5%. On redescend dans la vallée de Campan et ensuite on remonte vers le Tourmalet. Là, c'est 17 km, plus de 17 km à 7,3% de moyenne.
Celui-là, oui, avec un passage très très difficile, et c'est là d'ailleurs où les petits ratages de moteur se font. C'est au passage de la Mongie, à la sortie de la Mongie, le coureur qui n'est pas bien en règle générale, il saute là sur la montée du Tourmalet, et ensuite donc on a cette longue descente également sur lequel il faut rester toujours très vigilant. Et puis je trouve que le final est assez difficile parce que si on prend la montée du Tourmalet qui est régulière, là on a une succession de cols avec le col des Bordères. On redescend, on va monter le Soulor, et en fait la véritable montée c'est le Soulor, et ensuite on a une petite descente et on va remonter le Bisque. Mais cette montée, la montée finale n'est pas la plus difficile, c'est la montée du Soulor qui peut provoquer éventuellement des défaillances.
Lui qui n'est pas répertorié justement, le col du Soulor, demain en tout cas entre le kilomètre 144 et le kilomètre 180 et demi, donc entre Argelès-Gazost et le col d'Aubisque classé hors catégorie, ça ne va faire quasiment que monter si c'était une petite descente entre le col des Bordères et le col du Soulor. Cyril, juste avant de te laisser vaquer à tes occupations, peut-être tu avais un petit message à faire passer par rapport à ce que tu nous as dit en tout début de...
Oui, c'est un gamin de 15 ans, un cadet qui malheureusement a eu un accident mortel hier. Voilà.
Bon. Très bien. Merci Cyril d'avoir été avec nous. On te retrouve à partir de 19h tout à l'heure avec tout le reste de la Dream Team, avec Christophe Cessieux notamment, pour revenir plus en détail sur la victoire aujourd'hui du sprinter français de la Groupama FDJ, Arnaud Démare, devant Christophe Laporte. Christophe Laporte, le sprinter de Cofidis. Un petit détour par nos directs. Ventspils Bordeaux, deuxième tour aller préliminaire d'Europa League. C'est dur à dire. Je sais pas si je l'ai bien mis
dans le bon sens. 77 minutes de jeu, toujours 1-0 en faveur des Girondins de Bordeaux. Il va falloir s'accrocher et tenir ce résultat là, car les laitons poussent pour essayer d'arracher au moins le match nul.
Italie-France, ça c'est l'Euro des U19. Mathieu Charret, la demi-finale, où en est-on?
19 minutes de jeu et toujours 0-0. Les Français qui dominent plutôt, qui ont eu deux occasions assez chaudes, là à la 15e et à la 16e minute sur corner venu de la gauche de Michael Cuisance, mais ce n'est pas allé au fond. 0-0 toujours donc entre la France et l'Italie.
Allez, si vous nous rejoignez dans l'intégral tour sur RMC, bienvenue à vous. Je vous rappelle le classement final de la 18e étape aujourd'hui, remportée donc par Arnaud Démare au sprint, le sprinter de la Groupama FDJ qui sauve un petit peu plus le tour justement de son équipe française qui était privée de Thibaut Pinot. Il s'est classé devant Christophe Laporte, le coureur de Cofidis, et devant Alexander Christophe, le champion d'Europe, le sprinter du team Emirates. Peter Sagan, lui, n'a pu faire mieux que 8e, sans doute encore un petit peu handicapé par la chute qu'il avait eue hier dans la folle étape pyrénéenne. Stéphane a fait le 32-16, il est avec nous. Salut Stéphane.
Bonsoir à toute l'équipe.
Un petit cocorico ou non, c'est l'étape de demain qui t'intéresse?
Ouais, très honnêtement, bon, j'ai regardé celle-ci, voilà, un peu en amuse-bouche, en internet publicitaire, c'est surtout celle de demain que j'attends. Après, ça fait toujours plaisir d'avoir une victoire française, et un doublé, c'est quand même rare. Hein.
Ah bah oui. Écoute, c'est si rare effectivement que ça n'était pas arrivé sur un sprint massif. Tiens-toi bien, depuis 1978, je viens tout juste d'avoir l'info, cela faisait 40 ans qu'il n'y avait pas eu un doublé français sur un sprint massif. À l'époque, c'était Jacques Esclasson du team Peugeot et Saut Michelin qui s'était imposé devant Yvon Bertin de Renault Gitane Campagnolo. Tu te rends compte?
Eh ben écoute, impressionnant. Moi à l'époque, j'avais 8 ans, très honnêtement, je m'en souviens pas.
Ouais. Voilà, il y a peu devaient s'en souvenir hein, effectivement, mais même pour être encore plus complet, ce jour-là, il y avait eu 6 Français dans les 10 premiers, vois-tu. Mais bon, c'était un autre temps aussi où les Français où le cyclisme ne s'était pas encore totalement internationalisé, on va dire. En tout cas, ce qui est clair, c'est que ce doublé français, il nous fait bien plaisir. Tu voulais nous parler de l'étape de demain, je crois, Stéphane.
Oui, alors l'étape de demain, c'est vrai qu'elle a un profil qui semble intéressant. Après, très honnêtement, c'est pas l'étape de montagne la plus dure. dire, c'est un coin que je connais un petit peu, que j'ai eu l'occasion de faire avec des amis. On avait fait un tour de l'amitié il y a 4 ans et on était passé en particulier par ces cols. Et clairement, moi, ce que je regrette, c'est que le tour de Malais, il soit très loin de l'arrivée, alors que c'est avec le col un peu le plus dur de demain. J'ai décortiqué un peu les deux cols suivants au niveau des pourcentages par rapport à ce que les coureurs ont fait. J'ai peur que les positions soient un peu figées.
Attention au pourcentage, Stéphane, parce que on le disait très justement avec Cyril Guimard il y a quelques instants, c'est aussi l'enchaînement de ces cols et l'enchaînement du nombre de kilomètres où les coureurs vont monter. C'est-à-dire que entre Argelès-Gazost et le col d'Aubisque, tu vas avoir 36 kilomètres qui vont juste être ponctués par 6 ou 7 kilomètres de descente.
Oui.
Donc le reste, ça va être de la montée.
Ouais, tout à fait, c'est vrai. Après, j'espère quand même qu'on va avoir du spectacle. C'est vrai que l'étape d'hier était quand même très intéressante, même si au niveau du résultat, elle peut être un peu frustrante avec malheureusement la défaillance de Bardet. J'ai bien aimé le tempérament de Roglic, qui hier, il s'est pas contenté d'être avec les meilleurs. À un moment, il a osé deux attaques. Bon, ça a pas marché, mais j'ai bien aimé. Pour son deuxième grand tour à ce niveau-là, ben demain, s'il se sent bien ses jambes, il est capable de tenter. Et puis, à mon avis, celui qui peut chercher quand même à faire un peu secouer le cocotier, comme on dit, c'est Tom Dumoulin. Mmh. Tom Dumoulin, aujourd'hui, c'est une de ses dernières chances. Il est souvent deuxième, malheureusement, sur les grands tours. Je parle d'Italie et de la Vuelta.
Même s'il a remporté le Tour d'Italie, faut-il le rappeler quand même en 2017.
Exactement, même s'il a gagné le Tour d'Italie, mais il restait des fois sur des deuxièmes places qui étaient un peu frustrantes pour lui. Là, il a la chance d'être devant Froome, et malheureusement, il y a Geraint Thomas qui sort un peu du bois et qui est encore devant lui. Mais demain, je pense qu'il va tenter quelque chose, hein, parce qu'il a aussi, par rapport à ça, un bon tempérament.
Ouais.
Après, dans quel état va être Quintana? Est-ce que la chute d'aujourd'hui va lui laisser un petit peu de séquelles et, comment dirais-je, altérer ses capacités? Bon, Quintana est capable de retenter un numéro, parce qu'ils n'ont plus rien à perdre aujourd'hui. Hein. C'est la dernière opportunité qu'ils ont, donc... Espérons que ça finisse par un beau feu d'artifice. Oui. Je sais pas ce que vous en pensez.
Moi, je suis assez d'accord avec toi. Tu serais agacé peut-être d'une course attentiste, un petit peu comme ce que l'on a vu depuis quelques jours.
Alors, très honnêtement, voilà. Là, vous soulignez un point, moi, qui me frustre un peu. J'adore le tour, hein. Je suis vraiment un passionné de vélo. Et moi, ce qui me frustre aujourd'hui, c'est que des fois, je regarde la Vuelta, je regarde le Giro, je vois une course beaucoup plus débridée. Je vois des fois des gros leaders qui attaquent à 80 km de l'arrivée, 120 km de l'arrivée. Ce qu'on ne voit plus sur le tour, alors il y a des raisons à ça, hein. Et c'est facile de critiquer, de faire des marques comme ça, mais la Sky a un tel niveau que c'est aussi difficile pour les autres d'attaquer. Et c'est un petit reproche que je fais sur le tour aujourd'hui, l'étape d'hier, elle était bien, hein. J'ai trouvé le scénario sympa. 65 km, 3 cols. Il y aurait eu un Contador, premier col, il aurait été capable de placer une
C'est un peu ce qu'a fait Valverde d'ailleurs, hein. Hier. Exactement. C'est un petit peu ce qu'a fait Julien Alaphilippe. Après, avait-il les moyens d'aller plus loin que ça? Mais bon, c'est vrai que c'est des joueurs qui jouaient plus le classement général.
Voilà, exactement, c'est ça. Et moi, ce que j'attends sur ce type d'étape, surtout qui a été courte, la 65 km, à un moment perdu pour perdu, moi je préfère perdre les armes à la main, et c'est ce qu'on retient au niveau des champions, dans 10 ans, très honnêtement, qui se souviendra qu'Uran a fini deuxième du tour?
Moi je m'en souviendrai très honnêtement parce que j'ai été marqué par le fait qu'ils soient passés devant Bardet contre la montre de Marseille.
Oui, ça c'est vrai, c'était un tour avant, mais par contre sur son tour, aucune attaque.
Tu as raison, mais c'est vrai, moi l'image que je garderai de Uran l'an passé, en fait, c'est quand il avait justement couru derrière Bardet dans la descente, quand Bardet avait tenté de se faire la malle dans les Pyrénées lors d'une étape.
Tout à fait.
Merci Stéphane d'avoir été avec nous. En tout cas, tu reviens quand tu veux.
Continuez de nous faire vivre le tour comme vous le faites, c'est franchement exceptionnel et j'en ai des frissons de vous en parler. C'est un grand plaisir.
Écoute, on en est franchement ravis. Merci Stéphane, belle soirée à toi.
À la prochaine, salut.
Allez, 18h25 dans l'intégrale tour sur RMC. Tiens, on est ravis également de vous proposer les réactions du vainqueur du jour, Arnaud Démare. Forcément, pour lui, ce tour désormais, il est totalement réussi.
Ouais, ça vaut le coup. Voilà, c'est ce que je pensais dans les moments difficiles. J'y croyais toujours. Les jambes sont bonnes. C'est juste que voilà, je suis pas le meilleur en montagne. C'est pas nouveau, mais voilà, j'ai rien lâché. J'ai toujours cru en mes possibilités de victoire sur les peu de sprints qui restaient, Pau, les champs. Aujourd'hui, c'est chose faite. L'équipe, elle croit en moi. Mes proches, ils croient en moi. Ma femme, elle croit en moi. J'ai été énormément supporté en montagne. C'était beau à voir. Et aujourd'hui, voilà, je leur dédie à tous.
Voilà donc pour cette réaction d'Arnaud Démare, vainqueur de l'étape du jour. Aujourd'hui, la 18e étape de ce Tour de France était entre Trie-sur-Baïse et Pau, à travers les plaines et les piémonts pyrénéens. Victoire d'Arnaud Démare devant Christophe Laporte, l'autre français. Et puis Alexander Kristoff, le norvégien, qui s'est classé 3e. Peter Sagan n'a pu faire mieux que 8e. Il s'est classé juste derrière l'allemand John Degenkolb. Bon, on va faire un petit tour de nos directs. Ventspils, Bordeaux, les Girondins qui entament leur campagne européenne. Deuxième tour préliminaire. Allez, d'Europa League, Christophe Péné, comment ça se passe?
Toujours 1-0 pour les Girondins de Bordeaux. Bordeaux qui vient de se procurer une énorme occasion par l'intermédiaire de Nicolas de Bréville. Mais Maxime Ouvarenko, le gardien letton, a été très bon. Il reste 6 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Et toujours donc ce score d'1-0 en faveur des Girondins.
Autre direct football du soir, c'est en Finlande que ça se passe, la demi-finale de l'Euro des U19, la génération 99-2000. Les petits bleus qui jouent face aux Italiens, Mathieu Charret.
Oui, apparemment, il n'y a pas qu'en France qui fait chaud, puisqu'on est en pleine pause rafraîchissement, là, après 26 minutes de jeu entre la France et l'Italie, et toujours 0-0.
Allez, la suite de ces directs, les réactions de l'étape du jour. On se projettera également sur celle de demain, et puis dans un instant également, tiens, on sera avec Vincent Chaudel, spécialiste des questions de marketing sportif. Et oui, parce que Bordeaux joue face à Ventspils aujourd'hui en Europa League, mais Bordeaux, surtout, c'est un petit peu l'actu de l'été, on va dire le serpent de mer de l'été, pourrait bien être racheté par un fonds d'investissement américain. Les investisseurs américains plus que jamais amoureux de la Ligue 1. On va essayer de décrypter pourquoi dans un instant. 18h27, à tout de suite.
RMC Intégral Tour, Arnaud Souk.
18h30, l'Intégral Tour continue sur RMC. À partir de 19h, on se replonge définitivement dans le vélo. On va quand même faire une petite parenthèse. On a pas mal de football ce soir. Je vous ferai écouter quelques réactions quand même après l'étape remportée aujourd'hui par Arnaud Démare devant Christophe Laporte et ce doublé français inédit tout simplement depuis 1978 dans un sprint massif sur le Tour de France. 40 ans qu'on n'avait pas vu deux Français aux deux premières places. Tout simplement exceptionnel. Avant ça, on va faire un tour de nos directs. Ventspils Bordeaux, les Girondins qui entament leur campagne européenne du côté des Pays-Baltes, et c'est quasiment fini pour ce deuxième tour aller préliminaire de la Ligue Europa. Christophe Plenich.
Exactement, Arnaud, on est entré dans la dernière minute temps réglementaire, toujours 1-0 en faveur des Girondins de Bordeaux, un but inscrit dès la troisième minute par Seydou Youssouf.
L'Italie qui joue des mauvais tours à l'équipe de France en demi-finale de l'Euro U19 en Finlande, Mathieu Charret.
Ah oui, ça tourne très mal puisqu'en 3 minutes les Bleus viennent d'encaisser 2 buts. Le premier à la 27e par Christian Capone, trouvé tout seul aux 5 mètres du gardien français. Il profite du marquage un peu trop lâche de Boubacar Camara pour ouvrir le score. Puis ensuite, 2 minutes plus tard, c'est Moïse Kine, l'attaquant de pointe italien, qui part tout seul, qui se présente seul face au gardien et qui le trompe là encore sur son côté gauche. Ça fait donc 2-0 pour l'Italie après 31 minutes de jeu. La France qui est dos au mur maintenant.
Allez, on revient vous voir, messieurs, dans quelques petits instants. Les réactions qui évidemment s'enchaînent après cette étape donc remportée par Arnaud Démare, la 18e de ce Tour de France entre Trie-sur-Baïse et Pau, qui n'a strictement rien changé au classement général. C'était sûr, ce serait un duel ou en tout cas une bagarre de sprinteurs, et ça n'a pas loupé puisque Arnaud Démare s'est imposé devant un autre français, Christophe Laporte, et devant le norvégien champion d'Europe du team Emirates, Alexander Kristoff. Arnaud Démare, plus fort que la montagne. Arnaud Démare, le sprinteur de la Groupama FDJ, on va l'écouter, qui est vraiment très très content après cette deuxième victoire dans sa carrière sur le Tour de France.
C'était un final très rapide, voilà, avec la descente à 10 km de l'arrivée. On s'est perdu un petit peu, je me suis jamais affolé, je savais que physiquement ça allait le faire. Et voilà, j'y ai cru fort, on était idéalement positionné avec Jacopo Guarnieri, toute l'équipe a fait un excellent travail en amont, donc c'était un sprint parfait. Mon Tour de France est réussi. Je venais pour ça, j'ai travaillé pour ça, pour une victoire d'étape. Tous ceux qui ont suivi ma préparation savent tout le mal qu'on se donne pour un moment comme ça, donc c'est super.
Et en tout cas du côté de la Groupama FDJ, forcément les sourires sont de mise ce soir, parce que c'était vraiment un sale tour qui avait débuté par le forfait contraint et forcé de la star de l'équipe Groupama FDJ, Thibaut Pinot, le grimpeur qui avait été victime sur le Tour d'Italie d'une pneumopathie. Le Tour de France avait été très très compliqué donc pour cette équipe Groupama FDJ. Du coup, Fabien Le Gac, justement le coéquipier d'Arnaud Démare, ne peut que se réjouir enfin de cette victoire. Olivier Le Gac.
C'est sûr, c'est un soulagement. On venait là au tour pour ça. Arnaud était un peu en difficulté depuis le début du tour, mais on le savait en grande forme. Même si tous les jours en montagne, il est loin derrière, on savait qu'il était très costaud. Donc voilà, la victoire aujourd'hui, après un super boulot de toute l'équipe, Tobias Ludvigsson qui a vraiment roulé à fond derrière, qui était impressionnant. Et voilà, la victoire à Arnaud, c'est vraiment super. Une victoire, après il reste encore les champs, donc si on peut mettre la petite cerise sur le gâteau, ce serait super.
Et une autre équipe française en revanche fait grise mine, forcément. Ce soir, c'est le team Cofidis à la recherche d'une victoire déjà depuis de très très nombreuses années sur le Tour de France. Ça aurait pu être aujourd'hui pour Christophe Laporte, le sprinter de cette équipe Cofidis, mais malheureusement donc pour lui, il est devancé par Arnaud Démare sur la ligne et forcément extrêmement déçu.
Oui, une grosse déception. Dès que je reprends la route Démare, je reprends de la vitesse, je garde un peu l'aspiration et je commence à dépasser sur la gauche de la route. Et voilà, après c'est pas, voilà, c'est sûr, deuxième c'est pas mal, mais quand on est si près de la victoire, on a envie de l'emporter. C'est pas à moi de juger ça, je vous dis, moi je pédale, je fais mon sprint. Il y a des gens qui regardent les images, donc c'est à eux de juger.
Voilà, parce que évidemment il y a certaines personnes qui ont jugé que le sprint d'Arnaud Démare n'était pas tout à fait régulier. Voilà pourquoi Christophe Laporte disait c'est pas à moi de juger, il y a des gens qui regardent les images, parce que c'est vrai qu'il a fait une petite vague Arnaud Démare, mais a priori les commissaires de course ont décidé d'entériner le classement tel qu'il est. Demain, 19e étape entre Lourdes dans les Hautes-Pyrénées et La Reims dans les Pyrénées-Atlantiques. Ce sera une bagarre pour le classement général cette fois-ci pour les grimpeurs. Les sprinteurs pourront s'exprimer dimanche lors de l'ultime étape entre Houille et les Champs-Élysées à 18h35. Dans une dizaine de minutes, on fera un point sur toutes les infos mercato du jour. Mais on revient en football d'abord avec les directs du moment. Ventspils Bordeaux, deuxième tour préliminaire de la Ligue Europa. Christophe Plenet, c'est quasiment terminé.
Oui, on est dans le temps additionnel, toujours 1-0 en faveur des Girondins de Bordeaux, avec une occasion là quand même sur corner pour aller les temps de Ventspils. Monsieur Jobnanovic a regardé son chronomètre. On va peut-être suivre en direct ce dernier corner pour aller les temps de Ventspils, qui essaye d'arracher au moins le match nul, un but partout. Minimum syndical pour l'instant pour des Bordelais qui se sont fait bouger dans cette rencontre. C'est terminé. Victoire 1-0 des Girondins de Bordeaux sur la pelouse des Lettons de Ventspils. C'est terminé.
Qu'est-ce que c'est? Alors c'est terminé. Oui, visiblement c'est terminé. Ou alors il y a eu des... je suis pas sûr en fait.
Il y a les ragueurs là qui s'est fait exploser. Ah oui, la cloison nasale.
Ouais, effectivement, ouais, non, à mon avis, il va y avoir quelques petits soins, on va dire, parce qu'il y a eu un gros coup de boule dans la surface de réparation. Tiens, on va faire un tour sur Italie-France, demi-finale de l'Euro des U19. Mathieu Charret, ça se passe mal pour les Bleus.
Ça se passe mal pour les Bleus, absolument. 36 minutes de jeu, 2-0 pour l'Italie face à la France. Italie qui est désormais bien installée. Les Français essaient de les bousculer depuis qu'ils ont encaissé ces deux buts à la 27e et la 29e minute, pardon, mais ils tombent sur une équipe d'Italie bien en place maintenant. 2-0 donc pour l'Italie face à la France.
Alors, Ventspils Bordeaux, qu'est-ce qu'il se passe, Christophe? Sauf Plenet, Gustavo Poyet va devoir procéder à un changement ou
Non, c'est terminé Arnaud, là il appelle ses joueurs pour qu'ils aillent saluer la centaine de supporters bordelais qui effectuent le déplacement à Ventspils. Victoire donc 1-0 des hommes de Gustavo Poyet, minimum syndical réalisé par les Bordelais. On va retenir Arnaud le résultat, la manière un petit peu moins, il y aura pas mal de choses à améliorer quand même, mais la qualification est... Il faudra valider ce résultat jeudi prochain, Arnaud, Matmut Atlantique, lors du match retour.
Et du côté de Bordeaux, le patron de M6, Nicolas de Taverneau, a confirmé que les négociations étaient en cours avec un fonds d'investissement américain pour la vente des Girondins de Bordeaux, dont le groupe est l'actuel propriétaire. Donc Bordeaux en passe d'être pris par un fonds américain. Ça reflète un petit peu l'intérêt des investisseurs, justement, outre-Atlantique pour la Ligue 1. On en parle, justement, sur RMC ce soir avec Vincent Chaudel, spécialiste des questions de marketing sportif. Bonsoir.
Bonsoir.
Et merci d'être avec nous. Bordeaux, après Marseille, après Lille ou encore après Saint-Étienne, ce n'est pas une vue de l'esprit. Décidément, l'Amérique s'intéresse vraiment à notre Ligue 1 et de plus en plus.
D'abord, l'Amérique s'intéresse désormais au soccer, au football. Longtemps, ils l'ont dénigré, voire laissé de côté. Mais là, clairement, ils ont décidé de l'investir. Et pas qu'au niveau de quelques investisseurs, puisque ils se sont battus pour avoir la Coupe du Monde 2026. Et ils voulaient déjà la Coupe du Monde 2022. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu le FIFA Gate. Donc oui, il y a un réel intérêt des Américains pour ce qu'on appelle là-bas le soccer.
Pour le soccer, pour notre Ligue 1, pourquoi tout d'un coup, là, il y a des investisseurs américains qui arrivent dans notre championnat, alors que c'était pas forcément le cas avant, c'était même pas du tout le cas?
Alors, parce que les Américains sont des businessmen, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ils s'intéressent à quelque chose, ils essaient de trouver le meilleur rapport qualité-prix. En termes de performance sportive, c'est pas nécessairement en France aujourd'hui qu'on est le plus performant. Si on regarde le palmarès des Coupes d'Europe, c'est pas les Français les mieux classés au niveau des championnats. En revanche, c'est la France qui a le plus gros potentiel. On vient de le démontrer avec la Coupe du Monde. On a une qualité de formation qui nous permet d'avoir une équipe nationale très très forte. Puisqu'elle a gagné la Coupe du Monde, on peut pas dire qu'elle ne le soit pas. On a des clubs qui sont bon marché entre guillemets dans le top 5, parce que si on compare l'acquisition d'un club français à l'acquisition d'un club anglais, c'est incomparable. En Allemagne, il y a la fameuse règle du 50+1 qui fait que un investisseur n'a pas la capacité d'avoir la majorité du capital, donc c'est quelque part un repoussoir. En Espagne, les clubs les plus intéressants sont entre les mains des socios, que ce soit le Real ou le Barça, et donc ils sont inaccessibles. Et puis l'Italie se reconstruit et elle a un temps de retard finalement par rapport à la France. Donc la France a à ce niveau-là un intérêt réel. Il y a de nouveaux stades grâce à l'Euro 2016. Et puis il y a de nouveaux droits télé qui arrivent. Donc c'est vraiment le moment d'entrer sur le marché français, parce que il va y avoir des conditions fort intéressantes pour faire de clubs bon marché entre guillemets, de nouvelles pépites qui seraient capables de générer du cash pour des investisseurs américains.
On va y revenir plus en détail justement sur cette volonté évidemment de valoriser tout simplement un club pour mieux le revendre. Mais si je vous écoute, en fait la Ligue 1 c'est un marché prometteur parce que pour faire simple, les clubs français ce sont des bons plans économiques, peut-être même encore des meilleurs plans pour les Américains que des franchises de foot américain, des franchises de hockey sur glace ou encore de basket.
Mais c'est assez simple. Une franchise aujourd'hui, si vous voulez en acheter une, il faut avoir au moins 1 milliard en poche. Donc oui, un club français qui peut se négocier dans certains cas autour de 50-100 millions d'euros, on voit bien que c'est pas du tout le même équilibre. Et je crois que surtout les Américains ont compris que le football était le sport mondialisé par excellence. Jusqu'ici, les Américains vivaient dans un monde très auto-centré, où d'ailleurs, quand on parle d'un championnat américain, ils l'appellent la World League ou le World Championship. Donc en fait, ils pensaient que le monde était centré sur eux. Ils se rendent compte là, avec les chiffres, et il suffit de regarder les indicateurs Twitter et autres, que le football est le sport mondialisé par excellence. Et qu'il va y avoir un nouvel affrontement géopolitique sur le terrain du sport avec la Chine notamment, et qu'il est grand temps pour eux de s'y mettre pleinement. Et donc ils ont investi ce sport-là. Aujourd'hui, ce sport, le business se fait en Europe, donc il faut être en Europe. Il faut développer des joueurs en Europe, il faut développer des marques en Europe, et par contre ils ont un vrai savoir-faire dans l'organisation du sport spectacle. Donc quand on voit des groupes comme AEG s'intéresser à des clubs français, c'est clair que ça va avoir un intérêt plutôt à la hausse du développement du sport business français.
On parle avec Vincent Chaudel sur RMC, spécialiste des questions de marketing sportif, de l'intérêt des Américains justement pour la Ligue 1, puisque Bordeaux pourrait être en passe justement d'être repris par un fonds d'investissement américain. Il y a une question qu'on a abordée, j'aimerais qu'on aille plus loin, Vincent Chaudel. L'objectif ultime finalement pour ces fonds d'investissement, c'est d'investir afin de faire gagner au club des compétitions, afin finalement de mieux revendre les clubs. C'est un petit peu ça.
Alors ça dépend, il y a différentes stratégies. Il y a certains acteurs qui sont là pour effectivement faire une opération financière. On se rappelle de Colony Capital au Paris Saint-Germain. Probablement que c'est la même stratégie pour un fonds comme Elliott au Milan AC, qui récupère un club, mais c'était pas son objectif principal. Donc ils réinvestissent pour rendre la mariée belle et probablement la revendre par la suite. Et puis il y a d'autres stratégies. On pense, je pense par exemple à AEG, pardon, qui est propriétaire de différents lieux comme des arénas ou des stades, qui gère aussi de la carrière d'artistes et qui peut avoir un intérêt à avoir différents points d'exploitation en Europe, en Asie. Avoir un club, c'est garantir une partie de l'équilibre de la gestion d'un équipement. Donc c'est intéressant aussi pour eux dans leur propre business model.
Deux questions en une, j'ai envie de dire, pour terminer, Vincent Chaudel. Est-ce qu'il y a un effet PSG à travers justement ces investissements de plus importants de la part des Américains? Et est-ce que du coup, il faut en attendre encore plus dans les années à venir des investissements américains sur la Ligue 1, voire la Ligue 2, pourquoi pas?
En fait, je pense qu'il y a un effet PSG dans le sens où le PSG a dépoussiéré le regard le regard de la Ligue 1 que les gens pouvaient avoir dans le monde. Ça redevient un championnat bankable, un championnat intéressant et un championnat qui ne peut que se développer. Juste à titre d'exemple, on va passer là en termes de droits télé à l'international d'une trentaine de millions à 80 millions, là où nos concurrents sont à 300 et bien plus, voire au-delà du milliard pour les Anglais. Ça veut dire que au-delà de ces chiffres-là, c'est le nombre de téléspectateurs dans le monde qui va augmenter. Et pourquoi il augmente? Bah parce que on va pouvoir voir à travers les championnats de France des joueurs comme Mbappé, Neymar et bien d'autres, ceux de l'OM, de l'OL, de Monaco, qui est régulièrement performant. Donc oui, ça a un effet positif. Ça veut dire que les Américains qui s'intéressaient pas au soccer maintenant s'y intéressent et ils savaient pas nécessairement placer la France ou la Ligue 1 sur l'échiquier, et maintenant ils savent grâce au PSG le situer sur la carte. Et donc oui, il va y avoir d'autres investisseurs parce que la France, le championnat français est intéressant par rapport à ça, mais ces investisseurs peuvent être américains comme ils peuvent être chinois et pourquoi pas français? Pourquoi nous en France, nos milliardaires ne s'intéresseraient-ils pas à nos clubs?
Une toute dernière question comme ça, puisqu'on parle de Bordeaux à la base, ça vous paraît crédible cet investissement américain là justement du côté de Bordeaux?
Alors, ce qui me semble intéressant pour oui, ça me paraît crédible. Pourquoi? Parce que Bordeaux est un club qui a une histoire et c'est toujours plus facile de rallumer la flamme que de la créer. Donc oui, ça c'est intéressant. Deux, Bordeaux a un centre de formation, donc un outil de production qui est intéressant. Trois, ils ont un nouveau stade. Quatre, le prix est abordable. Donc quand on met toutes ces conditions-là, ça peut intéresser des investisseurs américains, notamment ceux qui ont un intérêt dans des tournées internationales, notamment de chanteurs, de groupes et autres.
Merci Vincent Chaudel.
Merci, à bientôt.
Et je vous rappelle la victoire aujourd'hui des Girondins de Bordeaux. C'était il y a quelques petites minutes en deuxième tour préliminaire aller de l'Europa League du côté de Ventspils en Lettonie. Victoire 1-0 des Girondins qui devront confirmer donc pour tenter de se qualifier au tour suivant la semaine prochaine lors du match retour au Matmut Atlantique. Il y a un direct en ce moment Italie-France demi-finale de l'Euro des U19. Mathieu Charret, les Bleus reviennent-ils dans le match?
Pas du tout, non. On vient d'entrer dans la première des deux minutes de temps additionnel de cette première mi-temps et les Bleus qui sont toujours menés 2-0. Ils sont un petit peu maladroits les Français, ils ont touché deux fois la barre là dans cette première mi-temps par l'intermédiaire de Michael Cuisance il y a quelques minutes et Malanxar un peu plus tôt dans la première mi-temps, mais voilà, ils sont donc menés 2-0 alors qu'il reste 1 minute 30 dans le temps additionnel.
Allez, 18h46, l'intégral tour revient dans un instant. Je vous rappelle la victoire lors de la 18e étape entre Trie-sur-Baïse et Pau aujourd'hui au cœur du Béarn dans les Pyrénées-Atlantiques d'Arnaud Démare, le sprinter de la Groupama FDJ qui s'est imposé devant son compatriote mais pas coéquipier, le coureur de la Cofidis, Christophe Laporte, et c'est le Norvégien Alexander Kristoff qui complète le podium alors que les Italiens ont bien failli marquer un troisième but face à l'équipe de France en demi-finale de l'Euro 2019. Ça passe juste à côté. Dans un instant, toutes les infos Mercato, toutes les infos de la planète Mercato Foot, évidemment. 18h46,
RMC Intégral Tour, Arnaud.
18h51, bienvenue si vous nous rejoignez dans l'Intégral Tour sur RMC. C'est Arnaud Démare aujourd'hui qui a été le plus rapide au sprint à Pau. Il devance Christophe Laporte et Alexander Kristoff. On reparle de vélo dans quelques petites minutes avec toute la Dream Team. Avant ça, eh bien évidemment, on va faire un tour de ce qui se passe sur le marché des transferts.
RMC, le Mercato Show. Le Mercato Show.
C'est mieux pour vous dire que la France est menée 2-0 à la mi-temps par l'Italie. C'est la demi-finale de l'Euro des U19, la génération 99 et 2000. Rémi Dumont est là. Aujourd'hui, ça bouge de partout, notamment à Lens qui accueille un attaquant français, Rémi.
Oui, bonsoir à tous, c'est officiel. Thierry Ambrose, 21 ans, est prêté par Manchester City à Lens pour un an. Un joli coup pour les nordistes car Ambrose est considéré comme l'un des espoirs du foot français. Il sort du bonne saison en prêt à Breda, aux Pays-Bas, où il a marqué 10 buts en 30 matchs.
Montpellier maintenant, où Jérôme Roussillon, le latéral gauche, suscite pas mal d'intérêt.
Oui, le joueur de 25 ans est convoité. Plusieurs médias évoquent l'intérêt de Wolfsburg en Allemagne. On a contacté les représentants du joueur qui nous ont confirmé des discussions avec plusieurs clubs, comme Wolfsburg donc, mais aussi Mayence ou le Betis Séville. Jérôme Roussillon souhaiterait lui franchir un cap sportif et reste attentif aux propositions. Sa situation devrait rapidement évoluer.
Youssouf Sabali des Girondins de Bordeaux devrait prochainement rejoindre l'Italie.
Oui, on pensait que les discussions entre Bordeaux et Naples étaient totalement rompus, eh bien pas du tout. Selon Girondinfo, Youssouf Sabali, le défenseur sénégalais, a été autorisé par les Girondins à rejoindre l'Italie pour discuter avec Naples. Le tout grâce à Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Napoli, qui préfère Sabali plutôt que Santiago Arias, le défenseur mexicain du PSV Eindhoven, qui n'avait plus qu'à signer son contrat au Napoli. Sabali pourrait donc bientôt découvrir l'Italie et retrouver Carlo Ancelotti, qu'il a connu au PSG en 2013.
En Italie, toujours à l'AS Rome, un Français pourrait quitter le club.
Oui, il s'agit de Maxime Gonalon, le milieu de terrain de 29 ans, qui aurait des touches en première ligue, du côté de Crystal Palace notamment. Le club anglais aurait fait une offre de 10 millions d'euros. On a contacté aussi son entourage qui n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet pour le coup. Un an seulement après son arrivée en Italie, Gonalon pourrait donc aller voir ailleurs. D'après la Gazzetta dello Sport, la Roma penserait à Steven Nzonzi, champion du monde en 2018 avec les Bleus, pour compenser ce possible départ.
Le Français Lucas Digne pourrait rejoindre la première ligue et le nord de l'Angleterre.
Annoncé du côté du Bayern Munich, Lucas Digne est courtisé par Everton. Selon Sky Sports, les Anglais seraient très intéressés par le défenseur français du Barça et prêts à mettre 25 millions d'euros pour l'enrôler. Non retenu pour le Mondial 2018 par Didier Deschamps, Lucas Digne, qui n'a disputé que 12 matchs la saison dernière avec le Barça, pourrait donc découvrir un nouveau championnat après avoir joué en France, en Italie et donc en Espagne.
Gonzalo Higuain, l'attaquant de la Juventus, pourrait aller au Milan AC.
Oui, ça chauffe. Le club italien souhaiterait enrôler l'attaquant de 30 ans pour renforcer son secteur offensif. Du côté des médias italiens, on évoque même un échange entre Higuain et Bonucci, le défenseur italien du Milan AC, qui pourrait du coup retourner à la Juventus, son ancien club. Si jamais l'échange ne se faisait pas, selon Sky Italia, le Milan AC garderait un œil attentif sur Morata, l'attaquant de Chelsea. Problème, le club anglais demanderait 65 millions d'euros.
Et on termine avec Manchester City, qui pourrait prochainement voir partir l'un de ses piliers.
Quand j'aurai fini mon contrat avec Manchester City, j'aurai 34 ans. À ce moment-là, je vais probablement faire quelque chose de différent. Voilà ce qu'a déclaré David Silva à Sky Sports au sujet de son avenir. Engagé jusqu'en 2020, le milieu de terrain espagnol devrait donc quitter le club anglais au terme de son contrat. Une page se tournera donc à ce moment-là pour les Citizens et pour David Silva. Arrivé en 2010, le joueur espagnol a remporté 8 titres avec Manchester City, dont 3 championnats d'Angleterre.
Merci Rémi Dumont pour toutes ces infos mercato que vous retrouvez sur notre site rmcsport.fr. 18h54, on va passer la main dans un instant à toute l'équipe de l'Intégral Tour, à Christophe Cessieux. L'occasion pour moi de vous donner le programme de demain. Lourdes dans les Hautes-Pyrénées jusqu'à La Reims dans les Pyrénées-Atlantiques. Je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6 difficultés dans la journée, dont 2 quatrième catégorie, mais 2 hors catégorie, le col du Tourmalet, le col d'Aubisque. Il y aura également un passage par le col d'Aspin et le col des Bordères pour pimenter un petit peu tout ça, et il va y avoir une grande lutte pour le classement général. On va en parler dans un instant avec Christophe Cessieux et toute la Dream Team. Revenir aussi sur la victoire d'Arnaud Démare. Tiens, est-ce que tu sais à quand remonte le dernier doublé français sur un sprint massif, Christophe Cessieux, sur le Tour de France?
C'était en 1978, je crois.
Ah oui, oui, oui. Mais tu vas me faire croire que tu t'en souviens.
Bah bien sûr.
Alors vas-y, si tu
vois un tweet, j'ai vu un tweet passer il y a quelques instants.
Non, 1979, effectivement.
78, non?
Non, 78, pardon. Excuse-moi. D'accord. Tu veux que je te donne les noms ou pas? Ça va te rappeler les souvenirs.
Vas-y.
C'était Jacques Esclasson devant Yvon Bertin.
Oh là.
À l'époque, ouais. Peugeot et Renault étaient les sponsors de vélo.
Il y a que Cyril Guimard qui s'en souvient. Hein.
C'est ben oui, oui. Mais retour, tu t'en souviens un petit peu, je suis sûr. Allez, bonne émission. À tout à l'heure, Christophe.
À tout à l'heure.
RMC Intégral Tour.